Chapitre 19. Le bon Jaffré s'endort. Commérol essaya de sourire, mais il était très pâle. Le bon Jaffré tremblait tout franchement. Les autres supportaient à l'avenant ce coup qui était fait pour troubler la digestion la plus heureuse. Figurez-vous un conscrit qu'on aurait laissé 6 ans et 11 mois dans ses foyers et qui se verrait tout à coup appelé en vue d'une bataille au 350e jour de la 7e année. En vérité, toutes ces choses étaient oubliées et mortes. L'étude de banc, sorte de loge particulière, au milieu de cette romanesque frérie des habits noirs qu'elle connaissait mal et à laquelle elle avait été reliée seulement par son chef, Monsieur Lecoq, n'avait pas encore vu le feu. Elle avait été instituée, cette loge, dans un but spécial et pour une affaire déterminée qui consistait à détourner au profit du même Monsieur Lecoq l'héritage des clercs. Monsieur Lecoq était mort, les habits noirs étaient dispensés et voilà je ne sais quelle trompette de l'autre monde qui sonnait. L'étude de banc n'était pas brave. Peut-être l'excusera-t-on pour cette faiblesse qui était son moindre défaut. Elle savait, l'étude de banc, que l'ancienne Marguerite de Bourgogne avait gardé sous son titre de comtesse toutes ses terribles témérités d'autrefois. Et bien que la mort de Monsieur Lecoq laissa libre, en apparence, les membres de l'association, chacun ici se sentait plus ou moins dans la main de la comtesse du Bréhut de Clercs. Est-ce au sujet de l'affaire du jeune duc ? Demanda Commérol au vicomte Annibal qui avait pris un siège. Quel jeune duc ? Fit le Napolitain. Monsieur Cœur, un rapin sans talent, et qui doit être né sous un chou. Je crois que madame la comtesse désire faire quelques petites choses pour lui. Asseyez-vous donc, très cher, et prenez votre café tranquillement. J'en accepterai une tasse avec plaisir. Commérol et ses amis se regardèrent. « Vaillant, grommela l'ex-premier clerc, va-t-on nous arracher le pain de la bouche? C'est une affaire faite, nous y avons travaillé 11 ans. » Le vicomte Annibal tendit sa tasse. « Le docteur Samuel, dit-il en adressant à ce dernier un de ses sourires blancs, auquel le plus subtil physionomiste n'aurait pu appliquer une signification quelconque, le docteur Samuel a dû vous apprendre les nouvelles du jour. Cet excellent monsieur le comte est bien malade. » Il sucra son café, entouré qu'il était d'un silence inquiet. « Bien malade, reprit-il. Je viens d'Italie, très cher, et il y a toujours eu une certaine obscurité autour de ma naissance. Savez-vous que ces clercs avaient un goût particulier pour l'Italie? Mon âge est bien à peu près celui qui convient. Avec un ensemble d'actes et de témoignages, je pourrais tout aussi bien hériter que le premier venu. » Personne ne souffla mot, mais toutes les figures se rembrunirent. Le vicomte Annibal but d'un trait la moitié de sa tasse de café. « Est-ce qu'il serait question ?» demanda Commérol, atterré. « Vaguement, l'interrompit le vicomte Annibal. Marguerite est une femme de génie. Cette nuit va voir des choses très importantes. Moi, je ne sais rien, si ce n'est qu'il faut un duc, puisque Marguerite a fantaisie d'être duchesse. » Ayant lampé le reste de sa tasse, il répéta « Moi, je ne sais rien, je suis comme vous, vous tous, très cher, une marionnette qui lève la main ou le pied, selon la ficelle tirée. »« Monsieur le vicomte, dit Jaffré avec dignité, je ne suis pas un polichinelle. »« Ouvrez la caisse, très cher, fit Annibal qui se leva. » Et comme Jaffré, stupéfait, consultait ses collègues du regard, le bel Italien passa ses mains d'albâtre dans sa chevelure, plus noire que du cirage, et poursuivit. « Inspection d'ordre, je suis chargé de voir si les titres sont encore là. »« Ah, oh, ça !» s'interrompit-il. « Entre marionnettes, on se doit aide et protection. Je ne parle pas pour ce bon monsieur Jaffré, qui n'est pas un polichinelle. Avez-vous une idée quelconque, vous, très cher, de ce qui va se passer cette nuit à l'hôtel de Clercs? Voici la position du problème. Marguerite veut que les titres soient dans votre caisse à l'heure qu'il est. Et d'un. Ils y sont, dit Jaffré. Très bien. La comtesse a besoin qu'à un moment donné, cette nuit, les titres soient entre les mains de ce jeune étourneau, monsieur Cœur. Et de deux. Il les aura pour 3 millions de signatures, glissa Commérol. Parfait, à moins qu'il ne les ait autrement. La comtesse veut rendre ses titres à maître Léon de Malvois et de Troyes. Il y eut un murmure courroucé parmi les convives. Bon, fit encore Hannibal, il paraît que vous n'aviez pas la moindre idée de tout cela. Elle travaille sans confident ni collaborateur, je m'en doutais. Mais vous savez, nous autres Napolitains, on ne nous empoisonne pas. Si j'étais le second mari, je vous préviens que je durerais très longtemps. Ouvrez la caisse. Le bon Jaffray, les clés à la main, s'approcha du respectable meuble. Commérol profita du moment pour dire tout bas à Hannibal « Vous avez été chez Monsieur Cœur de la part de la comtesse ?»« Oh, c'est de l'histoire ancienne, cela, très cher, » répliqua l'Italien en haussant les épaules. « Il y eut depuis lors une demi-douzaine de combinaisons. Mais laissez-moi voir un peu cette mécanique, on dit que c'est très curieux. » Jaffray avait désarmé le ressort de défense. Il ouvrit la caisse comme on ouvre toutes les caisses à secret. Rien d'extraordinaire ne se produisit. Il montra les titres qui étaient intacts. « Voyons la main de fer maintenant, » dit le vicomte. Jaffray referma le massif battant, remit les ressorts en place, et laissant la clé dans la serrure, il prit les pincettes du foyer. À l'aide des pincettes, et non sans quelque peine, il fit tourner la clé. Au moment où la serrure jouait, une paire de griffes sortit du battant et saisit les pincettes si fortement que le vicomte Hannibal eut besoin de faire un effort pour les dégager. « Ah, c'est joli, dit-il, très joli. Mais quand Marguerite tient les gens, elle serre plus fort que cela. Très cher, veillez bien sur votre trésor. J'ai idée qu'on vous escamotera les titres une fois ou l'autre. Dites-moi, ceci est pour ma propre édification. Les 30 lettres de change que va vous souscrire le peintre d'en face, Monsieur Cœur, seront d'excellents coupons pour avoir accès au banc des accusés de la cour d'assises. Je n'aimerais pas ces valeurs-là, moi, très cher. » « Ils sont à l'ordre de la brute, » répondit Commérol, avec une fierté modeste. « C'est moi qui ai arrangé tout cela avec Jaffray. » « Qui n'est pas un polichinelle. Dernière réflexion. Ce pauvre comte n'aura pas longtemps bon dos. Docteur, combien lui donnez-vous de semaines à vivre? Il est amoureux comme un fou, vous savez. Tantôt il veut tuer Marguerite, tantôt il se roule à ses pieds. J'ai été voir Van Amburk, le dompteur de bêtes féroces. Quand Marguerite joue avec sa brute, elle ressemble à Van Amburk. » Est-ce qu'on n'a pas dit, ces temps-ci, que ces bêtes l'avaient mangé? Oh, mes pauvres oiseaux sont reconnaissants, au moins, soupira Jaffray, heureux d'avoir si bien placé son affection. Le lion de Van Amburk n'aurait pas mangé Marguerite, dit tout bas Commérol. C'est le diable. J'ai vu le temps où la brute valait un lion, mais elle l'a maté. Il mourra à genoux, cet innocent-là. Savoir, fit le vicomte Hannibal, que je vous conte une histoire. La semaine dernière, la brute a fait une tournée de santé chez une demi-douzaine des meilleurs médecins. Après vous, docteur, il les a priés, tout de go, de lui dire s'il était empoisonné et avec quoi. Ils l'ont tâté, palpé, flairé, goûté. Les plus francs lui ont avoué que, pour répondre à cette question indiscrète, ils auraient besoin de faire préalablement son autopsie. D'autres lui ont demandé, vous savez bien quoi? Il n'a pas permis l'autopsie, mais il a fourni le reste aux hommes de l'art. Ceux-ci se sont livrés à de superbes analyses. Devinez ce qu'on a trouvé. Tous les regards étaient curieux et le cercle se resserra autour du vicomte Hannibal. « Voyadio, gronda Commérol, je ne sais pas à quelle pharmacie elle se fournit, mais on a dû trouver quelque chose. »« Néant, » prononça le vicomte avec emphase, « pas un scrupule de quoi que ce soit, pas un atome, rien, rien, rien de rien. » « Il n'y a pas besoin de poison pour empoisonner, » dit le docteur entre ses dents, « outre que vos grands faiseurs d'embarras de la faculté sont tous des ânes à licou. » « Amen !» ponctua le vicomte Hannibal, qui peignait la soie de ses moustaches devant une glace. Vous devez avoir raison, très cher, car les princes de la science lui ont tous dit, en prenant chacun ses 25 louis, que s'il n'arrachait pas cette idée de poison de sa grosse tête obtuse, il mourrait comme un chien qui a avalé une boulette. Quel charmant démon que cette Marguerite! Elle vous a des façons de sucrer le thé de son premier mari qui font frémir. Elle n'y met que du sucre, à ce qu'il paraît, mais le pauvre comte, après avoir bu, a des coliques d'arsenic. Ce que c'est que l'idée! Quelqu'un de vous, messieurs, veut-il bien me donner l'adresse de deux vénérables citoyens nommés Cocotte et Picpus, escrocs de profession? Ils n'ont pas d'adresse que je sache, répondit Commérol, mais à l'heure qu'il est, vous les trouverez très certainement au tripot de Madame Cocarde, à la montagne Sainte-Geneviève. Le vicomte Annibal écrivit ce renseignement sur son carnet. Les convives du bon Jaffray étaient soucieux à l'unanimité. « D'ici, reprit Annibal, il n'y a qu'un pas, j'y vais. Ah, très cher, avec la confiance d'une femme comme Marguerite, on n'est pas un garçon de loisir. J'ai du travail par devant les yeux cette nuit, ah, sans parler de mes devoirs de cavalier servant, car il faut que je sois à mon poste en grand costume dès l'ouverture du bal. On ne peut pas se passer de moi, vous savez. À vous revoir, ne venez pas trop tard, croyez-moi, ce sera curieux. » Je ne sais pas tout, on ne sait jamais tout avec notre gracieuse souveraine, mais je peux vous promettre qu'avant le soleil de demain, l'hôtel de Claire aura vu peut-être, à l'insu de tous ceux qui vont encombrer ses salons, quelque diabolique aventure. Il se coiffa. La soie de son chapeau était moins brillante que ses cheveux. Son sourire étincelant et froid illumina un instant le cadre de la porte, puis il disparut. L'ancienne étude de banc resta un instant immobile et muette. « Quand donc, murmura Jaffray avec abattement, quand donc me sera-t-il permis de goûter les charmes d'une aisance tranquille ?»« Il y a deux voies ouvertes, messieurs, opina Commérol, la résistance et la soumission. Voulez-vous que nous discutions brièvement ces alternatives ?» Avant que personne pût lui répondre, un domestique entra, portant une lettre. La lettre était pour Commérol, qui dit en voyant l'écriture de souscription « Encore !» C'était de ce caractère large, lourd, informe, dont l'aspect seul irrite et indigne les gens que leur notoriété expose à recevoir la lâche visite des lettres anonymes. Ce n'était pas cependant tout à fait une lettre anonyme, car elle était signée Hubert Soyer, et chacun savait ici que Marguerite prenait ce nom pour correspondre avec ses fidèles. La lettre était courte, elle disait « N'écoutez pas trop l'italien, il est dépassé et joue de son reste. On n'espère pas conserver longtemps le premier mari. Cette nuit, on vous désignera l'homme que vous devez reconnaître, savoir l'étude pour la victime de l'assassinat de la rue Campagne, le docteur pour le fils de la veuve. L'adavo et la concierge du numéro 10 sont à nous. Soyez tous là et prêts à tout. Il fera jour à 11 heures. Hubert Soyer. » Après avoir lu cette lettre à haute voix, Commérol la froissa et la jeta au feu. « Il y a des écrits qu'il faut garder, car ce sont des armes, murmura-t-il, mais il y a des armes qui brûlent les mains. » Chacun autour de lui gardait le silence. « Pour le coup, dit Jaffray, dont les dents claquèrent, la mèche est allumée. »« Et ne rien savoir, gronda Commérol, où est la mine ?» Le docteur Samuel murmura « C'est la crise, tenons-nous bien. » Et il songea à la diligence de Calais qui partait le soir, menant à Londres en 30 heures. Il n'y avait pas un seul des assistants qui n'eût quelque pensée analogue. Mais perdre en une minute le travail de 10 ans et une part de ce splendide gâteau, l'héritage de Claire. Commérol dit le premier « Moi, messieurs, j'irai, coûte que coûte. » Les autres répétèrent tour à tour « J'irai ». Tous, jusqu'au bon Jaffray, qui soupirait gros pourtant à l'idée que ces oiseaux pourraient rester orphelins. Les convives se séparèrent tristement, se donnant rendez-vous à l'hôtel de Claire à 11 heures. Le bon Jaffray resta seul. Certes, il n'était pas fait, celui-là, pour les luttes violentes. Il aimait la nature telle qu'on la peut admirer dans les bosquets du jardin des plantes, autour de l'enclos où grouillent les canards. Il aimait le petit vin blanc, consommé avec modération, en mangeant des marrons rôtis. Il aimait les lithographies coloriées, représentant les quatre parties du monde, sous la forme de quatre jeunes personnes bien coiffées et ornées d'attributs symboliques. Il aimait les tendres vaudevilles où Bouffé pleurait, les romances du père Penseron, les pralines et l'anisette. Douce âme, cœur sensible à l'endroit de tous les oiseaux, quels qu'ils fussent, et ne donnant jamais rien aux pauvres de peur d'encourager la paresse, il eût bien voulu gagner beaucoup d'argent honnêtement et sans courir aucun risque. Ah, ce n'était pas lui qui cherchait les aventures. Il remit une bûche au feu et s'assit au coin de sa cheminée. Il étendit ses jambes sur le tapis et se mit à tourner ses pouces. Après un dîner copieux, se dit-il, on peut peut-être être indisposé. Si j'étais indisposé, je ne pourrais pas aller au bal de Madame la Comtesse. Est-ce vrai cela? Cette réflexion le porta à cesser de tourner ses pouces pour se frotter les mains tout doucement. Il resta un gros quart d'heure à méditer, puis il dit encore une excuse. J'en ai une superbe. Cet Italien, blanc et noir comme une pie, monsieur le vicomte Annibal Guilloja, ne nous a-t-il pas menacé indirectement d'un vol? S'il a dit devant tous les autres, veillez bien sur les titres. Quoi donc? C'est bien commun. Je m'arme jusqu'aux dents et je fais sentinelle autour de la caisse. Il me semble que c'est du dévouement, dis donc. Pour la seconde fois, il se frotta les mains avec un sincère plaisir. La pendule en doré mat, dont le sujet était une jeune bergère très grasse, regardant deux colombes qui se becquetaient pour le bon motif, marquait 10h30. Le valet de Jaffray vint demander s'il pouvait se coucher. « Oui, Pierre, répondit le doux homme, fermez bien aux portes. Je vous souhaite un sommeil tranquille, mon ami. » Pierre s'en alla. Quand 11h sonnèrent, Jaffray prit sa lampe et pénétra dans le réduit où il avait parqué pour aujourd'hui ses oiseaux. Il avait besoin de voir quelqu'un, la solitude lui pesait. Il y avait là une nombreuse, très intéressante collection de volatiles, grands et petits, tous plus ou moins privés et qui étaient stylés à venir lui manger dans la bouche. Ils dormaient en ce moment sur leur perchoir. Aucun d'eux ne semblait avoir de mauvais rêves. Jaffray les regarda longtemps d'un œil attendri. Il fit le tour de la chambre volière, souriant à ce repos qui ne connaît plus le remords. Il sourit à ces serins, droits et hauts sur leurs jambes, à ces chardonnerets, à ces rossignols, car il avait des rossignols qu'il appelait Philomèle, à ces sansonnets, à ces bouvreuils, à ces rouges-gorges, à ces bengalis, à ces cardinaux, à ces perruches, à ces aras, à ces merles, à ces fauvettes, à ces pintades, à ces faisans. D'une voix douceâtre et fausse que la Providence lui avait départie, il fredonna « Dormez donc, mes chers amours, pour vous je veillerai toujours. » « Toujours, s'interrompit-il, pourtant, avec un sourire amer, c'est bête que l'homme bienfaisant soit mortel comme tout le monde. Petits êtres intéressants, ah, vous pleurerez votre protecteur quand il ne sera plus. » Cette pensée mélancolique amena une larme dans ses yeux. Il l'essuya. Puis, ayant quitté ses oiseaux chéris avec une parole polie, il alla ouvrir son secrétaire où il prit une paire de ces affreux pistolets dits « coups de poing » qui manquent leur homme à bout portant. « Quand ils viendront demain, il faut qu'ils me trouvent armé, » fit-il en examinant l'amorce de ses pistolets. « C'est dans le rôle d'un factionnaire. » Il était 11h30 quand il revint à sa bergère, avec une robe de chambre sur le dos et un bonnet de coton sur la tête. Se déshabiller de nuit va généralement bien aux âmes sensibles. « Ah, c'est l'instant où ils arrivent là-bas, pensa-t-il. Grand bien leur fasse. Si la mine éclate rue de Grenelle, j'aime à croire que la secousse ne se fera pas sentir jusqu'ici. » Pour la troisième fois, il se frotta les mains. Après quoi, il posa ses pantoufles sur les chenets et se souhaita à lui-même la bonne nuit. Le sommeil parut venir d'abord, et le nez busqué du bon Jaffray ébaucha même la première note de la chanson des ronfleurs, mais il se réveilla en un tressaillement, parce que son pied droit, prenant l'appui du chenet glissant, venait de heurter les carreaux du foyer. Tout de même, fit le brave homme, si les voleurs venaient... Il devint plus pâle que le tricot de son bonnet. Remarquez ceci. Chaque fois qu'un brusque accident vous réveille à l'improviste, vous avez vaguement peur, peur de n'importe qui. Le bon Jaffray avait peur volontiers et souvent il participait à la nature un peu timide de ses fils adoptifs, les petits oiseaux. J'aurais dû garder Pierre, pensa-t-il. J'ai eu tort de l'envoyer se coucher. Ah, mais maintenant il faudrait monter au cinquième. Ah, je ferai établir une sonnette. Ah, je suis étonné de n'avoir pas songé à cela. Mon architecte est un sot. Ah, cet Hannibal a dit d'une certaine façon, veillez bien sur vos titres. Il a été plus loin, il a dit, j'ai idée qu'on vous escamotera les titres une fois ou l'autre. Et il a demandé l'adresse de Picpus et de Cocotte, de désespérés coquins. Ah, Marguerite serait bien capable. Il n'acheva pas, mais il frissonna de la tête aux pieds. C'est bête, balbutia-t-il, les lambris craquent. Ah, ces entrepreneurs vous mettent du bois vert. Est-ce qu'on ne parle point tout bas dans la rue sous la fenêtre? Il fit un mouvement pour se lever, mais il n'osa pas. Ah, des rues pareilles, poursuivit-il. Ah, c'est sûr, à peu près comme la forêt de Bondy. Ah, heureusement qu'il y a l'atelier Cœur d'Acier, des gaillards solides. Ah, mais je n'ai pas vu de lumière à leur croisée ce soir. Il sauta dans son fauteuil parce que la porte battait un coup sec. Comme tout ferme mal, prononça-t-il plaintivement. Si j'étais grand turc de France, tous ces architectes seraient brûlés vifs à petit feu. La pendule sonna minuit. Un silence absolu régnait au dehors. Le bon Jaffray ramena le collet de sa robe de chambre sur ses oreilles et se mit à compter jusqu'à 1000 pour s'endormir. Vers 750, il perdit connaissance, rêvant que ses oiseaux ouvraient la porte de leur appartement et qu'ils venaient danser autour de lui ce fameux ballet des volatiles qui, monté d'abord au Cirque National, continuait son succès dans les petits théâtres et jusque en foire. Cela l'amusait. Il était seulement contrarié par la familiarité du dindon qui lui caressait le nez avec l'appendice rouge et charnu de sa gorge. Il n'y a pas de plaisir pur en cette vallée de larmes. Si seulement le bon Jaffray eût compté 100 de plus, il aurait entendu dans la rue des bruits bien susceptibles de motiver cette erreur. On allait, on venait, on parlait tout bas. Je ne sais quelle ombre bizarre parut tout à coup à la hauteur du premier étage, du côté de l'atelier de cœur d'acier. Le réverbère fila le long de sa corde graisseuse. Aussitôt qu'il se fut rapproché du pavé, une autre ombre traversa la chaussée et ouvrit la lanterne qui subitement s'éteignit. La rue resta plongée dans une obscurité profonde. En même temps, la porte cochère de la maison cœur d'acier s'ouvrit sans bruit, comme sans bruit s'était accompli le destin du réverbère. On put entendre sous la voûte humide un murmure confus, comme si beaucoup de gens joyeux, mais ayant intérêt à étouffer les éclats de leur gaieté, étaient rassemblés là-bas. Le regard était à peu près impuissant à percer ici les ténèbres, cependant le regard devinait confusément des choses étranges et burlesques. La réalisation du rêve de ce bon Jaffray, des oiseaux, une cohue d'oiseaux de taille surnaturelle qui foisonnaient et qui jouaient dans cette nuit épaisse sans faire entendre aucun ramage. Les deux hommes qui avaient collaboré pour éteindre le réverbère, celui du premier étage et celui de la rue, se rejoignirent sur le pavé. Ils fouillèrent dans leurs poches, qui rendirent un bruit de ferraille, et attaquèrent incontinent la serrure de la maison Jaffray. C'étaient des enchanteurs. Leurs mains étaient fées. Au bout d'une minute, la porte céda. Ils entrèrent, tous deux. Leurs pas muets ne sonnèrent point sur les dalles, tandis qu'ils passaient devant la loge du concierge. Ils étaient chaussés tous deux de lisières, quoiqu'ils fussent du reste bien couverts et parussent appartenir à la classe des messieurs. Ils montèrent l'escalier du premier étage, restèrent une minute juste à la porte du carré de Jaffray et redescendirent, laissant la porte ouverte. Arrivés en bas, ils traversèrent la rue de nouveau et passèrent le seuil de cœur d'acier. Là, dans l'ombre, on entendit compter quelque argent, puis une voix qui pouvait appartenir à Monsieur Baruch dit « En vous remerciant, Monsieur Cotte-Cotte et Monsieur Picpus ». Une autre voix ajouta « Le reste nous regarde, en avant, marche, le temps fuit, car il a des ailes ». Monsieur Cocotte et Monsieur Picpus remontèrent bras dessous la rue de la Sorbonne. Par la porte de l'atelier cœur d'acier, la foule des gigantesques oiseaux, Le rêve de cet infortuné Jaffré fit irruption sur le pavé. La chaussée fut traversée avec des sauts prodigieux, des bonds invraisemblables, des battements d'ailes qui ne se peuvent peindre, et le rêve s'engouffra dans l'allée propette de la maison neuve. L'horloge de la Sorbonne sonnait 1 heure après minuit.